je suis de A à U.
h 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. Sous le soleil et la bonne humeur, ce soir on parle élections avec en deuxième partie d'émission des étudiants de Bouge-ton Campus que nous avons croisés en ce deuxième jour d'élection et que nous avons interrogé pour vous. Afin de nous expliquer les élections aux conseils centraux de l'université, ils s'opposent à l'Union Pirate que nous avons malheureusement ratée. Et pour commencer cette émission, nous avons accueilli Glenn Dissot, chef de file des écologistes de Brest, qui va nous parler de ses projets pour les élections municipales de 2026. Et de l'atelier organisé par les Verts qui s'est déroulé samedi dernier au quartier Saint-Marc.
Une conférence de presse le 10 mars où vous aviez notamment parlé d'un atelier qui s'est déroulé le samedi 29 mars. Malheureusement, on n'a pas pu y assister, mais vous êtes là du coup pour en parler un peu. Est-ce que vous pouvez récapituler ce qui s'est passé samedi dernier ?
Déjà, c'est pas grave, vous pourrez venir au prochain, vous êtes invité, on en fera plein d'autres.
Okay.
C'était un peu la première étape, la première brique de tout ce qu'on veut construire, c'est-à-dire effectivement, donc moi je suis écologiste, on a décidé qu'on allait dans tous les cas de figure travailler un projet pour les municipales qui auront lieu l'année prochaine, et on a créé pour ça une dynamique qui s'appelle Brest Ensemble, et qui vise un peu à parler à tout le monde, à toutes les forces, on va dire, de gauche, humaniste, écologiste, de progrès. Donc on veut vraiment parler à très très large, et on propose pour ça pas mal de temps de rencontres. Là, on a relancé du porte-à-porte dans les quartiers. Il y a donc ces fameux ateliers, dont le premier était samedi dernier. Et puis on va en faire plein d'autres, parce qu'il y a eu plein d'idées, et on échange avec, voilà, avec tout le monde, avec les assos, les autres forces politiques, les citoyennes, citoyens qui veulent. Voilà, donc là, on a fait notre premier petit temps à Saint-Marc. Et le principe, c'était qu'on faisait des petites tables par quartier, en fait. Que tous les gens des quartiers se retrouvent avec un animateur pour voir un petit peu, déjà, qu'est-ce qui nous plaît à Brest, pourquoi à Brest c'est cool et pourquoi il y a plein de trucs très cool dans les quartiers, et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et en fait, en allant comme ça au plus près, c'est vachement bien parce qu'on peut aller dans le truc très précis, quoi. Moi, je suis rive droite là, à Saint-Pierre, et je peux dire, bah, là, j'aimerais bien que la place elle soit réaménagée parce qu'il y a trop de voitures, parce qu'on circule pas bien, parce qu'il n'y a pas assez d'arbres, etc., etc. Donc, chacun a pu donner son avis comme ça sur le quartier. Et puis après, on a fait un grand truc de plutôt quelles sont nos valeurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit, nous, une aventure politique, c'est quoi ? C'est la solidarité, c'est le partage, c'est plein de choses comme ça. Voilà, donc ça, c'était la première étape, le premier atelier qui s'est déroulé samedi.
Et qu'est-ce qui en est ressorti ? Enfin, surtout des convictions des gens qui sont venus, parce que j'imagine qu'il y avait des gens lambda, entre guillemets, qui sont venus, il n'y a pas eu que des politiciens.
Ah non, pas du tout, au contraire. Là, le principe de ce genre de temps et tout ce qu'on va faire pour le reste, c'est vraiment tout le monde vient, il y a des gens très différents, il y a des très jeunes, des bien plus anciens. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants, donc la plus jeune avait genre 12 ou 13 ans, je crois. Elle est restée quand même, elle s'est pas trop embêtée. Non, tout le monde vient, tout le monde donne son avis. Et vraiment, ce qui est très cool, c'est les gens, c'est sur leur vie quotidienne et sur ce qu'ils vivent tous les jours, qui nous aident aussi et qui nous disent qu'il faut bouger.
Et du coup, qu'est-ce qui en est ressorti de leur avis ?
Plein de trucs. Comme je disais, des trucs assez territorialisés. C'est-à-dire, on sait que, voilà, à Saint-Marc, ils aimeraient bien aller dans cette direction-là. À Bellevue, c'est plutôt un autre truc. Donc maintenant, il faut qu'on analyse tout ça, qu'on regarde, et puis qu'on élargisse. Là, on était assez nombreux déjà, donc ça, c'était assez cool. Moi, il y avait des gens que je connaissais pas, que j'avais jamais vus. Mais le principe, c'est qu'on continue à faire ça, qu'on aille voir vraiment tout le monde, des gens très différents, et qu'on alimente en fait un projet comme ça. Le truc, c'est qu'on a un peu moins d'un an. La vraie campagne, elle va commencer dans, on va dire, 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller récolter plein d'idées, plein de vécus des gens et inviter tout le monde à venir construire le programme avec nous. C'est vraiment comme ça qu'on veut voir les choses. Donc, il y a des passerelles avec des partis politiques, mais vraiment pas seulement. C'est pas l'essentiel du truc. Les gens, ils sont aussi légitimes que les partis à participer à la dynamique. Donc voilà, pour l'instant, on prend des notes, on synthétise tout ça, on regarde. Et puis après, viendra le temps de tout mettre ça propre.
Donc, vous dites qu'il y a des passerelles avec des partis politiques, donc il me semble que vous vouliez faire une sorte de lien entre les écologistes, les insoumis et les socialistes, si je ne me trompe pas. Donc, comment vous le sentez, comment vous pensez que ça va finir ?
Alors comment ça va finir ça, je n'ai pas encore de boule de cristal, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ambition, elle est claire, c'est que nous, on veut parler à tout le monde. L'idée de base de ce rassemblement-là, de Brest Ensemble, c'est qu'on veut que tout le monde puisse venir, se sente bien, qu'on ait une dynamique qui soit cool, sympa, dynamique, on boit un coup, on échange, ça peut être partout, et que les gens puissent franchir le pas facilement et se sentent pas inconfortables. Parce que c'est pas facile hein, quand même d'arriver dans un truc comme ça et de dire, bon bah voilà, moi j'ai envie de donner mon avis ou de rencontrer des gens. Nous on veut que ce soit le plus cool possible. Après, au niveau politique, ça fait quelques années qu'on essaye de faire l'union la plus large à gauche. Il y a eu la NUPES, il y a eu le Nouveau Front Populaire. Nous, on a toujours joué collectif là-dessus. On a des élus dans la mairie, donc on parle à certains partis de gauche, dont le Parti Socialiste, dont l'UDB, dont Génération.s, etc. Et après, on a des bons liens aussi avec la France Insoumise, avec d'autres partis qui ne sont pas non plus représentés. Donc nous, voilà, on cache rien, on parle à tout le monde. Et tant que ça se passe bien, on envisage les trucs ensemble. Après, parfois, il y a les partis, les appareils, les machins qui arrivent, et c'est pas possible, et ce sera dommage, mais... On veut essayer de faire un truc le plus large possible. Nous, on sait le faire. Au niveau national, moi, je suis assez proche de Marine Tondelier et qui aime bien parler à tout le monde. Et on aime bien faire ça aussi ici à Brest. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, nous, l'invitation et les invitations, elles tiendront toujours pour parler à tout le monde.
Il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est on veut essayer de parler à tout le monde. Comment est-ce qu'on, en tant qu'écologie, comment est-ce qu'on s'y prend? Vous avez évoqué le porte-à-porte. Quels sont tous les moyens qui sont mis en place pour essayer justement de parler à tout le monde? Peut-être aussi des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont jamais voté à gauche ou écolo, ou qui n'ont pas eu tout le temps, qui n'ont pas eu une conscience écologique, comment est-ce qu'on s'y prend?
Alors ça, on pourrait faire une émission entière sur la question, mais c'est une question primordiale. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens à la vie politique déjà? Et comment est-ce qu'on arrive à sortir parfois des clichés, des caricatures, des trucs qu'on peut lire dans la presse nationale en particulier? On a un vrai problème là-dessus. Donc l'idée, c'est par la mobilisation de terrain. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'aventure des élections municipales, parce que c'est un truc qui nous parle au quotidien. On peut vraiment parler de tous les sujets qui nous préoccupent. On n'est pas dans des grandes élections lointaines, on a l'impression de rien maîtriser, et tout se joue à Paris ou je sais pas où. Là, c'est vraiment, on fait une équipe, on commence à être déjà un petit nombre, et donc on pourra aller dans tous les quartiers, on pourra faire des permanences, des ateliers, des réunions, du porte-à-porte, donc aller tracter, aller rencontrer les gens, aller en fait prendre rendez-vous aussi avec toutes les assos, toutes les structures, les MPT, les maisons de quartier. En fait, l'idée et le principe, et ce qui est très cool, c'est que là, on a plusieurs mois pour vraiment faire ça, pour aller rencontrer tout le monde et leur dire, ok, là, il y a une échéance électorale qui arrive. Déjà, franchement, c'est super important d'aller voter parce que ça change tout, hein, que ce soit la droite, la gauche, c'est pas pareil. Il y a plein de trucs dans votre vie quotidienne. Voilà, pour la fac, ça veut dire plein de trucs. Pour vos déplacements, ça veut dire plein de trucs. Et donc, tout ce qui est vraiment très chouette, c'est ça. On va être très nombreux et on va organiser, j'espère, plein de choses, des événements. Il y aura du festif, il y aura des trucs pour travailler. En fait, il faut réussir à prendre toutes les formes parce que comment est-ce qu'on va voir les plus jeunes, comment est-ce qu'on va voir les plus vieux, etc. Ça veut dire aller se déplacer là où sont les gens. Donc il faut être aussi créatif, imaginatif. Mais c'est vraiment le cœur du sujet.
Donc là, parce que du coup, vous parlez de faire des ateliers pour prendre le pouls de la ville et essayer d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais votre programme, il est fait. Enfin, je veux dire, est-ce que vous voulez faire quelque chose de 50-50 de ce que vous travaillez avec vos collègues et aussi 50% d'avis des Brestois? Comment est-ce que vous l'organisez, ce programme?
Alors, il n'est pas fait du tout, notre programme. C'est ça qui est vachement bien. C'est que, évidemment, voilà, on sait à peu près qui on est les écologistes, on travaille avec d'autres gens qui sont plus ou moins écolos, ou de gauche, ou qui ont une sensibilité. Donc, il y a certains trucs, on sait à peu près dans quelle direction on va aller. Et surtout, on avait un programme déjà la dernière fois, en 2020, et il y a plein de choses là-dedans. Alors, soit qu'on a réussi à mettre en place, et d'ailleurs, les Brestois sont, je pense, plutôt satisfaits de certaines mesures, et d'autres choses qu'on n'a pas encore faites. On a une grande base, évidemment. Il y a un autre point qui est, on regarde ce qui se passe ailleurs, et on a plein de copines dans d'autres grandes villes en France et qui ont mis des choses en place, et ça marche très bien. Moi, je connais bien le maire de Lyon, le maire de Grenoble, le maire de Strasbourg, de Poitiers, et on s'inspire aussi de ça. Mais par contre, on est Brestois, et on a des spécificités ici, et donc tout le sujet, justement, c'est de pouvoir avoir plein d'idées, de voir ce que veulent les gens aussi, et de voir si ça colle avec nos fondamentaux, nos valeurs. Donc c'est pour ça, on veut que ce soit le plus ouvert possible, et en fait, faire le programme vraiment, écrire le programme, ça viendra pas avant vraiment la toute fin d'année, quoi.
Et en plus, on parlait des préjugés sur les écologistes que les gens peuvent avoir dans l'imaginaire public. Moi, de ce que j'avais, de ce que vous aviez évoqué dans la conférence de presse, vous parlez pas seulement de nature en ville ou de mettre en place des mobilités, plus de mobilité douce sur Brest, des transports en commun, tout ça, mais vous parlez aussi d'agir pour le pouvoir d'achat, d'éducation populaire, de tranquillité publique aussi. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu ces points ici?
Ouais, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie politique, c'est pas uniquement s'intéresser à l'écologie, à l'environnement, mais c'est vraiment avoir une vision de la société la plus large possible. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit dans les villes qui sont dirigées par des écologistes. Mais en vérité, dans ces coalitions-là, il y a des gens de toute la gauche. Il y a des insoumis, des communistes, des gens qui sont pas encartés, des gens qui viennent du milieu associatif. Il y a une diversité comme ça d'opinions, et on s'intéresse à tout, bien sûr. Donc on a beaucoup de choses à dire sur le modèle social brestois en particulier. Enfin, dans la société dans laquelle on vit, là, il y a un vrai sujet qui est le pouvoir d'achat et qui est la capacité à se loger, par exemple. Ça, c'est devenu un truc, ça fait déjà quelques années. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a des politiques nationales qui sont de plus en plus dures, de plus en plus, franchement, antisociales. Il y a un service public qui est complètement abîmé dans tous les sens. Enfin, on a un grand besoin d'aller financer l'hôpital, l'éducation, la fac. Et c'est valable pour tous les services publics. Et au niveau local, on a aussi des services publics locaux. Nous, on y tient beaucoup. Donc ça, c'est un propos politique à avoir. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle social dans nos villes et dans nos quartiers? On est très attaché aux structures de quartier, à l'éducation populaire. Moi, je viens de l'EducPop. J'étais salarié associatif pendant des années. C'est vachement important d'avoir tous ces relais-là, d'avoir des médiateurs, d'avoir des éducateurs, des animateurs dans les quartiers, etc. Donc oui, on a une vision qu'on partage d'ailleurs. C'est pour ça qu'aussi notre optique de rassemblement Brest Ensemble, ça nous parle parce que en fait, on partage un ADN commun. Et on voit bien que dans le monde politique de plus en plus clivé, avec des gens qui virent franchement très à droite dans une société de l'intolérance totale où c'est chacun pour sa gueule, nous on défend l'inverse, on défend un modèle de solidarité et évidemment on met ensemble la protection de l'environnement, des animaux, des humains et la justice sociale et le combat pour le logement, le combat pour les salaires, etc. On parle de tout.
Ouais. Ouais, et puis justement, vous parlez d'éducation. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros blocus à la fac de lettres de Brest.
Ouais.
Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des échos de ça, enfin, est-ce que vous avez été mis en lien avec des étudiants ou des gens qui étaient sur place?
Ah ben, on suit ça de très très près, effectivement. Brest est quand même une ville étudiante et c'est super important pour la ville. Et on a plein de sujets. En fait, on a un gros problème global de considération de l'université publique en France, c'est assez dramatique, et de financement, tout simplement. Et donc, à la fois sur l'infrastructure, sur les modèles qui sont proposés, on a plein de choses à dire. On était aussi l'autre jour à Plouzané, là, pour les histoires de Crous, complètement, enfin, c'est complètement délirant, quoi. On a besoin de vraiment repenser les choses et pouvoir financer l'éducation publique en France. Donc ouais, on suit de près tout ce qui se passe au niveau étudiant un peu partout.
Ouais, ça justement, donc pour ceux qui sont pas au courant, mais pour le Crous de Plouzané, ouais. En fait, ils veulent privatiser la cafétéria à ce niveau-là. Et ça va avec le projet d'EPE, donc d'établissement public expérimental qui va être mis en place à l'université de Brest. Donc, est-ce que cette idée, enfin ce projet plutôt d'EPE, il va avoir une place dans vos élections?
En tant que tel, l'EPE ou les réformes de l'université, pas directement, parce qu'en fait c'est pas les compétences de la mairie. Mais néanmoins, d'une part, on a moyen de mettre la pression sur nos élus nationaux et les députés en particulier, parce que c'est eux qui font la loi et c'est eux qui peuvent aussi influer à Paris pour dire qu'il faut des moyens pour l'université et que les réformes ultralibérales, elles vont pas dans le bon sens et que c'est pas comme ça qu'on va sauver l'excellent modèle français. Après, au niveau local, on a quand même des choses à faire. C'est-à-dire que nous, on gère pas les universités en propre, mais on a quand même plein de liens. On travaille sur les infras avec la fac, évidemment. On a des échanges au quotidien. On a des liens et de recherche, etc. Donc, il y a quand même plein de choses à faire. Et l'éducation au sens large, on va dire, c'est un sujet dans tous les cas de figure. Les villes, elles gèrent les écoles. Nous, on s'occupe des écoles maternelles et primaires. Ça, c'est vraiment notre domaine de compétence. Après, voilà, les collèges, c'est le département, les lycées, c'est la région, et les universités, c'est l'État. Donc, chacun prend sa part. Mais en tout cas, on a un discours très fort à porter, et clairement, depuis quelques années, et avec le gouvernement Macron, c'est juste catastrophique la façon dont la fac est traitée. Et après, sur les compétences propres, on s'intéresse plus aux écoles, effectivement.
Est-ce que justement c'est aussi ça tout le challenge et peut-être tout ce qui est extrêmement intéressant dans ces élections municipales, c'est qu'on parle au niveau local et donc il y a quelque chose peut-être de très concret dans la vie des Brestois et Brestoises?
Ah bah carrément, moi je pense que c'est ça qui peut parler aux gens aussi. Moi c'est ça qui m'intéresse, je suis élu local pour une raison, c'est que en fait on peut faire bouger les choses très concrètement. Et on parle de trucs qui sont proches de chez nous. Alors parfois, ça ne veut pas dire que c'est des sujets simples. Hein. Il y a plein de sujets très complexes. Et il faut aussi réussir à contenter tous les gens. Et parfois, il y a des points de vue qui sont aussi très opposés et très clivés. Ça arrive au niveau local, et de plus en plus d'ailleurs. Mais ouais, en fait, on est sur vraiment le quotidien. Et moi, j'aime bien, j'ai pas de problème à aller gueuler en permanence et critiquer tout ce que fait le gouvernement. En plus, avec Macron, c'est facile. On peut critiquer à peu près tout. Mais bon... Après, on fait quoi ? Oui, d'accord, on vote, oui, d'accord, il y a tout ça, mais moi, je me sens loin aussi de tout ça, et j'imagine que je ne suis pas le seul. À la ville et à la métropole, enfin, en tout cas, en local, déjà, le vote, ça compte, donc il faut aller voter, vraiment, parce que ça joue, hein, parfois quelques dizaines, centaines de voix, on fait la différence, on fait la bascule, et tout change après pendant 6 ans. Et on peut, voilà, on peut vraiment développer des politiques. Enfin, voilà, si demain, on fait un plan vélo super ambitieux, ça change la vie quotidienne. Si on décide d'avoir, justement, des politiques sur la restauration... On l'a fait pour les écoles ici. On a une des meilleures cantines scolaires de France qui nous est vraiment envie. On a du bio, du local à fond, ça marche super bien. On travaille avec tous les producteurs du coin. Nos gamins ici, ils mangent super bien. Bon, on a le droit aussi de dire qu'on sait faire les choses et qu'on peut peut-être l'étendre, par exemple, à d'autres publics, y compris pourquoi pas les étudiants, etc. Enfin, d'aller bouffer un sandwich ou un truc à 12 balles le midi quand on peut utiliser une cuisine centrale qui fait des super bons produits. Enfin, j'en sais rien. Donc ouais, c'est du concret et on peut faire bouger les choses et je pense que ça peut vraiment intéresser les gens au quotidien sur voilà, le logement, l'alimentation, comment on bouge, enfin vraiment c'est tout ce qui nous occupe. Quoi.
Moi j'avais aussi une question sur la tranquillité publique. Je voulais savoir quels étaient qu'est-ce que vous allez mettre en place sur ce sujet-là.
Encore une fois, j'ai dit que tout était ouvert et qu'on veut les idées de tout le monde, donc j'arrive pas avec mes idées préconçues. Enfin, pas définitives en tout cas, j'ai quelques idées quand même, et on en a. Là-dessus, en fait, on a comme compétence, encore une fois, à la municipalité, tout ce qui est prévention et tranquillité publique. Historiquement, en France, la sécurité côté répressif, on va dire, c'est l'État, c'est régalien, c'est-à-dire qu'on a une police nationale qui est chargée de réprimer, en gros, et puis de s'occuper des délits. Simplement, maintenant, ça a un petit peu changé, et il y a plein d'échelons qui prennent leur part dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Je ne trouve pas ça terrible, mais... en tout cas, on a un questionnement sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que cette notion de sécurité, comment est-ce qu'on protège les gens? Et nous, on axe beaucoup nos réflexions sur ça, la protection, la préservation. Comment est-ce qu'on est en sécurité? Comment est-ce qu'on se sent mieux? Et en fait, la sécurité, on peut la prendre sous plein d'aspects. C'est la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, il y a plein d'aspects. On a tendance souvent à réduire, à dire, bon, bah voilà, c'est la petite délinquance en ville, et puis voilà, sécurité égale répression, égale délinquance. Il n'y a pas que ça, il faut faire attention. Mais je pense que moi, il faut regarder tout ça sans dogmatisme, sans tabou. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, justement. On regarde les chiffres, on regarde les sentiments des gens. Et là, il y a des trucs aussi très variés, hein, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, etc. Il y a parfois des gens qui partent dans des délires assez lointains. Donc on objective ça, on regarde les chiffres. Et là, par exemple, on a eu le dernier rapport, les derniers chiffres sur Brest. On s'aperçoit qu'on est descendu en dessous de 10 000 délits par an, ce qui est en fait relativement faible par rapport aux villes de même taille. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, et ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant. Hein. Mais parfois, il faut redescendre un peu aussi, regarder ce qui se passe. Notre société, en vérité, elle est beaucoup moins violente que la société qu'ont connue nos parents et nos grands-parents. Ça, c'est un truc avec lequel on a du mal, parce qu'aujourd'hui, tout est documenté, on sait tout de suite, tout est filmé, tout est monté en épingle, etc. Et on a une violence symbolique qu'on voit un peu partout. Mais en termes bruts, il y a moins de morts aujourd'hui. Il n'y a pas de morts dans la rue, ça arrive très rarement. Enfin, et donc, il faut mesurer ça. On est dans une évolution de moins en moins violente. Néanmoins, il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes de narcotrafic, il y a des problèmes de petits délits, de vol, etc., etc. Et donc, comment on traite ça? Et moi, je souhaite qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore là-dessus et on se dise comment on traite ça? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là-dessus, il n'y a pas une réponse, évidemment, il y a une multiplicité de réponses. Il faut réussir à être aussi un peu subtil et mettre de la nuance là-dedans. Moi, je crois beaucoup à la présence de terrain. Je parlais tout à l'heure des animateurs. Moi, je crois que ça commence comme ça, en fait. C'est d'abord la prévention, d'abord on met des médiateurs, des animateurs, des éduques dans la rue, on occupe un peu, occuper c'est pas le bon terme, mais on propose des activités aux gens, et c'est comme ça qu'on évite déjà qu'il se passe des choses. Et après, il y a quand même le volet répressif, et donc ça c'est comment est-ce qu'on traite ça, en lien avec la police nationale, prérogative propre, nous de quoi on s'occupe, nous la ville, et du coup, avec qui Il y a des, actuellement, on a une brigade de tranquillité urbaine. On posera la question d'une police municipale, peut-être un jour. Et si oui, dans quel cadre, etc. Tout ça, il faut le poser et il faut regarder un peu ce que ça veut dire. Il y a aussi la question de la vidéo, les caméras. Alors moi, je ne suis pas très favorable parce que je pense que ça, la vidéosurveillance, ça n'a jamais empêché un délit, par exemple. Mais, et puis, bon, dans, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais il y a plein de sujets à poser comme ça. Et nous, on veut le faire vraiment de façon très libre et très ouverte.
Eh bien, merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Glenn Dizot.
This morning in the rain, brightness coming from the traffic lights. Quietness around me is a place for the terrific sight. My head is a stone and my body weighs a ton. Everything is fine. Welcoming empty bodies passing through the night. Coming to my mind, all the lovers I've combined in this huge quiet town. The daylight is so smooth through the window of my mouth that it makes me smile.
Sadril avec This Morning in the Ring sur Radio U. Et pour cette deuxième partie d'émission, des étudiants de Bouge ton Campus que nous avons croisés en ce deuxième jour d'élection et que nous avons interrogés pour vous, afin de nous expliquer les élections aux conseils centraux de l'université. Ils s'opposent à l'Union Pirate que nous avons malheureusement ratée.
Alors bonjour, moi c'est Lali, du coup je suis étudiante en troisième année de droit et je suis actuellement secrétaire générale en charge de la communication à l'association Acide Brest.
Alors moi je m'appelle Axel, je suis en L1 droit et je suis vice-trésorier de l'Acide.
Et bonjour, du coup je suis Robin, étudiant en deuxième année d'AES RN2 et du coup coordinateur du pôle affaires académiques pour la fédération ARES et le suivi du coup de l'Acide Brest.
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ici pour tracter ?
Alors du coup, hier et aujourd'hui, il y a eu les élections centrales, donc qui sont assez importantes parce que ça permet d'élire les étudiants qui siégeront dans les conseils. Donc ces étudiants qui représenteront nos droits et défendront nos projets et notamment aussi pour les associations, nous permettent aussi d'avoir les financements pour réaliser des gros projets.
J'ai pas grand chose à rajouter, c'est juste qu'il va y avoir plusieurs listes, des listes syndicales, des listes associatives, et du coup c'est pas être juste le positionnement et les façons de gérer qui vont changer.
Il y a certaines associations qui sont plus politisées que d'autres. Vous, votre asso, elle se positionne où à peu près ?
Alors nous, on est apartisans, donc c'est-à-dire qu'on est rattaché à aucun parti politique. Et du coup, les associations qui sont actuellement sur le campus, on est avec notre fédération de territoire, donc la FEDB. Et du coup, on est tous pour la même liste. Et du coup, nous, on est apartisans, contrairement à certaines autres listes qui ont pu poser.
Et là, vous les sentez comment les élections ? Comment s'est passé aujourd'hui ? Vous avez réussi à... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de votants ?
En termes de pourcentage, on n'a pas vraiment les résultats, mais généralement, ça tourne autour de entre 10 et 15% en moyenne. Sinon, en vrai, les associations sont assez bien implantées, la fédération aussi, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup de sièges qui soient perdus, même plutôt peut-être des sièges gagnés. Actuellement, je crois que la FEDB compte 4 sièges en conseil d'administration, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, dans les CFVU, les CFVU, c'est les commissions de formation de vie universitaire. C'est des collèges qui sont du coup sectorisés par UFR. Donc là, je les aurais pas en tête, mais je sais qu'en droit, en DEG, il y avait quasiment, vous avez tous les sièges. Et juste en lettres, ils se partageaient 2 sièges avec une étudiante, et c'est tout.
C'est quoi les convictions principales pendant ces élections, enfin pour ces élections ?
Alors bah nous, enfin moi personnellement, du coup, je connais nos convictions à nous. Du coup, nous, on soutenait la liste Bouge ton campus, et donc on avait surtout comme projet de militer pour un financement digne de l'UBO, de renforcer l'accessibilité à un enseignement supérieur, donc lutter contre l'augmentation de la CVEC et s'opposer aux frais illégaux, et agir pour une offre de formation adaptée aux besoins des étudiants et favoriser l'accompagnement des étudiants et des futures étudiantes à l'insertion professionnelle. C'était les gros objectifs pour la liste Bouge ton campus.
Il me semble aussi que vous militez aussi beaucoup pour la cause étudiante. Dans votre programme que j'ai sous les yeux, la place de l'étudiant semble être quelque chose de très important.
Alors oui, la place de l'étudiant est centrale car nous aussi, nous sommes des étudiants et nous avons vraiment pour projet de les défendre et les représenter. C'est aussi ce qu'on fait à travers nos associations, tout le temps proposer des projets qui peuvent les faire s'exprimer, se mettre en valeur. Et donc c'est tout aussi l'enjeu de ces élections, c'est de savoir si justement les sièges qui seront pris seront pris par des personnes qui s'assurent bien que les étudiants sont représentés. Donc oui, pour nous, ça représente un enjeu majeur parce qu'on est nous-mêmes étudiants et on sait que parfois, on peut être un peu oublié et qu'être étudiant, malheureusement, ça coûte cher aussi et que ça demande du temps. Donc essayer de trouver des choses qui permettent de faciliter ces choses-là, quoi.
C'est ça, et justement, dans la liste, il y a aussi lutter contre la précarité étudiante, notamment pour les premières nécessités, donc alimentation, logement, santé. Là, il y a les... Est-ce que vous voulez développer ces points ?
L'Agora a été mis en place, donc c'est des distributions alimentaires dont les prix sont réduits justement pour proposer aux étudiants un accès à l'alimentation et aussi au projet de vie d'hygiène, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça permet justement d'agir directement en proposant des denrées alimentaires, aux étudiants qui parfois, on sait que les fins du mois parfois sont compliquées et que les prix augmentent, donc c'est aussi des actions directes qu'on a pour leur faciliter aussi le pouvoir d'achat.
Il y a des permanences qui sont mises en place, des permanences juridiques pour aider tout ce qui va par exemple toucher au problème avec les enseignants, mais également du coup tout ce qui va toucher directement aux aides sociales.
Quel type de problème avec les enseignants ?
Typiquement, là, dernièrement, on a eu des étudiants qui sont venus se plaindre parce qu'elles avaient eu un 0 injustifié sur leur moyenne en TD. Donc, elles avaient commencé à avoir avec le professeur. Et justement, on les accompagne dans la mise en place du recours, éventuellement les rendez-vous, les choses à dire, comment expliciter les faits de façon à pouvoir justement obtenir réparation. Et sinon, du coup, on va beaucoup aider sur les aides sociales. Qu'en fait, alors ça va plus être avec le CROUS. Donc le CROUS, c'est une instance qui est différente de l'université, c'est des conseils différents. Mais du coup, il existe des aides sociales à l'année, des aides sociales ponctuelles et diverses autres aides sociales. Et on accompagne beaucoup les étudiants là-dessus pour pouvoir du coup, leur permettre d'étudier dans des conditions plus dignes.
Au niveau de la santé, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour améliorer la santé des étudiants
Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup développé.
Oui, je crois pas qu'on ait beaucoup développé.
Pour le coup, en vrai, ce qui peut être pertinent pour développer la santé, c'est la mise en place de street workout directement sur le parvis de l'université. T'as d'autres choses à dire,
Valérie ? Là, aussi, on peut dire ce qui a été déjà fait. Il y a la mise en place du congé menstruel qui a été fait justement grâce aux élus cette année. Donc ça, c'est des choses qui sont pour les étudiants.
Les BTC.
Bouge ton campus. Donc les élus Bouge ton campus ont mis en place le congé menstruel, donc, ce qui est vraiment une grosse avancée, puisque malheureusement, c'est des choses qui évitent aussi, enfin qui simplifient les problèmes pour ces femmes-là. Parce que malheureusement, louper des cours, c'est compliqué, surtout quand on a des semaines qui sont assez intensives pour les étudiants, donc c'est bien qu'ils puissent mettre ça en place.
Vous avez souvent des problèmes avec des professeurs en DG ou dans la fac en général, enfin dans l'université, dans l'UBO en général?
Alors à l'UBO, je vais pas avoir l'exemple, mais je fais partie d'une permanence nationale justement sur ça. Et en vrai, avec les enseignants, il y a pas énormément de problèmes ni de remontées. Ce qui va surtout être problématique, ça va être les conditions d'études des étudiants, tout simplement. Donc vraiment les finances qui ont pêché.
You owe me something. Many people understand. You owe me something. I got a box full of pop and they're inviting my space. Then happy memories, I got enough, fading like pains. Was burning up the time, now I pray to have less. In my mind, like a labyrinth, I cannot escape. I was a lonely kind of girl with a bad temper, I guess. The one who loves her mommy so, but mommy was depressed. Big dreams to hide from a future senseless. Could not be a losing battle and gently fall in the abyss. Many people understand the way I talk and try hard to forget. The way I fight, fall and become bad. You gotta one time, only one try. Mistreat my lonely life. I got a big scars and a bleeding heart. I never stop haunting you. You gotta be full of stress and have so many regrets. Trying so hard to beg for my late forgiveness. All these pictures you keep are memories with no sense. And my little tricks, nothing compares to your sins. Let me play, well I need to have fun. Isn't it my turn to laugh at your expense? What a small compensation for all the troubles you made. See how little pleasure remains. Time has come to take my revenge.
C'était Koi avec Ghost sur Radio U. Et avant de se dire au revoir, et comme tous les mercredis, c'est le moment de la chronique de Gwen. Salut Gwen.
Bonsoir.
Tu nous parles d'un manga ce soir, sorti en ce début d'année, Yon, par la française Camille Broutin, passé par la prestigieuse école des Gobelins, premier tome d'une série prévue en 4 épisodes.
Une œuvre d'une grande épure qui rime avec efficacité. On pourrait la décrire comme un thriller haletant, mais en fait, on ne sait pas bien où il nous emmène. Il fait partie de ces œuvres qui sont mystérieuses sans qu'on puisse dire vraiment tout à fait pourquoi. L'entrée en matière se fait un peu attendre, les premières pages suivent le quotidien d'une lycéenne dans une banalité synonyme de claustration, alors que les dessins insistent sur la géométrie asphyxiante de ce lieu austère, angle droit, lignes fuyantes, murs, carrelage. Un lieu aussi insalubre en témoigne ce bâtiment désaffecté, tout aussi isolé que le personnage principal. Rien de bien nouveau de ce côté-là, c'est le traditionnel scénario de la lycéenne mal dans sa peau, potiche sur le terrain de badminton, assise seule par terre contre un mur. Des images convenues mais qui, en racontant l'isolement et le mal-être, désignent en fait la spécificité, le caractère extraordinaire de l'héroïne incomprise, car différente, dont le pouvoir, ou du moins l'hypersensibilité, la rendra finalement plus puissante. Le basculement vers l'étrange prend ici la forme de choses cylindriques qui tombent du ciel avec lenteur et grâce comme une pluie surnaturelle. Mais ces choses sont bien évidemment des êtres plus ou moins maléfiques qui ont la capacité de détruire d'autres êtres. Le mal, la menace transcendante, tout ça on l'a déjà vu mille fois. De fait, dans ce premier épisode, Camille Broutin ne réinvente rien du tout et ce n'est sûrement pas là son objectif. En parfaite maîtrise de son art graphique, elle se révèle plutôt subtile et distante dans sa façon de raconter par l'évocation, la suggestion, et conçoit finalement une œuvre envoûtante. Un premier coup d'essai certes prometteur, mais pour savoir si les graines semées ici dévoileront leur plein potentiel, il faudra quand même attendre la suite de cette série prévue en 4 tomes.
Précision que Camille Broutin participera aux prochaines rencontres Brest en Bulle qui auront lieu en septembre au Capucin. Ce sera aussi à Camille Broutin de dessiner l'affiche de cette édition. Pour finir, tu nous parles aussi d'un moyen-métrage assez troublant, disponible en ce moment sur la Cinéthèque.
Mademoiselle Else date de 2010, il est réalisé par Isabelle Prime, qui a autant étudié les beaux-arts que l'art dramatique et le cinéma. C'est une adaptation du roman du même nom, écrit par l'Autrichien Arthur Schnitzler dans les années 20. Et dans sa forme littéraire, il brisait déjà pas mal de codes, parce qu'il faisait usage du monologue intérieur, procédé alors en vogue. Il nous donnait le point de vue d'une jeune bourgeoise, obligée de se laisser regarder comme un vulgaire morceau de viande, tout ça pour des questions d'argent. L'atmosphère anxiogène de ce roman novateur est interprétée ici sous l'angle du montage tarabiscoté, qui a tout du découpage slash collage dada. Cet art de l'expérimentation formelle, c'est aussi celui du cinéma de Léos Carax ou d'Azanavicius, parce qu'il procède du même décalage loufoque. Isabelle Prime tronque des images qu'elle met toujours en perspective en démultipliant par exemple les écrans de télévision. Elle a choisi le sous-titrage plutôt que le doublage, ce qui met d'autant plus en lumière les choix de bruitage grossier, volontairement mal mixé, éclats de verre, porte qui grince, porte qui claque. Elle sait comment procurer des sensations désagréables, comme à travers les bruissements glauques de sa robe en caoutchouc. Mademoiselle Else s'apparente en fait à une créature exubérante qui s'approprie la vie des autres, brasse des images, des photos, des peintures, entre lesquelles elle essaye de se glisser pour créer son propre monde.
Merci beaucoup Gwen, on te retrouvera mercredi prochain. Et bonne soirée à toutes et à tous.